Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur un événement dont évidemment on se souvient tous, bien sûr, la terrible crise des incendies qui ont ravagé l'Australie durant l'été 2019-2020. Ces incendies, ils ont été d'une ampleur inégalée, ils ont également dégagé d'énormes nuages de fumée. Et on a avec nous quelqu'un qui s'y est intéressé de près, il s'agit de Johan Hjort. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Johan, vous êtes biogéochimiste marin et vous avez participé à une étude qui a été publiée tout récemment dans la revue Nature, qui s'est intéressée justement à l'impact de ces nuages de fumée sur la vie marine et sous-marine. Et à vrai dire, bah oui, les découvertes que vous avez faites sont à la fois incroyables et un peu inquiétantes. Elles ont, ces fumées, si j'ai bien compris, provoquer un phénomène énorme en plein océan. De quoi s'agit-il?
Ils ont provoqué ce qu'on appelle un bloom phytoplanctonique. Le phytoplancton sont de toutes petites plantes, elles sont microscopiques en fait, et elles existent partout dans l'océan. Et en fait, sont la base de la vie marine. C'est un peu comme les plantes qu'on a sur Terre. Ils font la photosynthèse, ils utilisent des nutriments et la lumière du soleil pour produire la toute première matière organique de l'océan. Et à partir de là, c'est tout le reste de vie marine qui va venir manger. Du coup, les phytoplanctons, c'est vraiment très, très important. Et en fait, on l'utilise beaucoup parce que c'est un des mécanismes qui agit sur la photosynthèse globale. Ça fait le 50% de la photosynthèse globale, c'est fait par le phytoplancton. Et l'autre 50%, c'est fait pour les arbres sur Terre. Et ce qu'on a vu, c'est que la fumée en fait de feu, ça générait un patch énorme de phytoplancton sur une surface qui est plus grande que l'Australie. Et en plus, ce qui est plus surprenant, c'est que ça s'est arrivé dans une région qui est très pauvre en phytoplancton. C'est une sorte de désert océanique. C'est le Pacifique, en fait, le Pacifique Est.
Alors, ce phytoplancton, pour les non-spécialistes, c'est un genre de petites algues, hein, c'est ça?
C'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est juste que dans l'océan ouvert, les algues ne se reproduisent pas comme des grandes algues qu'on peut trouver sur les côtes. Ce sont de toutes petites algues qu'on ne peut voir qu'avec des microscopes. Par contre, quand tu n'as beaucoup, beaucoup de surface, en fait, la couleur de l'océan, ça change un peu, ça devient vert. Et c'est ça qu'ils utilisent les satellites pour mesurer la concentration de chlorophylle en surface, excuse-moi, de phytoplancton. La chlorophylle, c'est pareil que les plantes qu'on a à la maison. Le phytoplancton utilise la chlorophylle, c'est un pigment de couleur vert que l'on utilise pour absorber l'énergie du soleil. Du coup, c'est ce changement dans la couleur de l'océan que les satellites ils utilisent et comme ça, on mesure le phytoplancton à distance.
D'accord. Alors, donc, ces phytoplanctons, vous l'avez dit, elles se sont reproduites de façon exponentielle sur une surface énorme, plus grande que l'Australie. Et ce que j'ai cru comprendre également, là où vous étiez assez surpris, c'est que normalement, ce type d'algues de phytoplancton, enfin, c'est déjà arrivé par le passé qu'on en voit apparaître beaucoup à la suite d'incendies importants dans des lacs, dans des petits cours d'eau ou même des bassins de rétention d'eau. Mais ça n'avait jamais été constaté déjà sur une ampleur pareille et en plein milieu de l'océan en plus. C'est ça, hein, ça c'est inédit.
Oui, ce qui est inédit, c'est vrai que ça avait été observé, par exemple, en 2006, je ne me trompe pas, il y a eu un papier, un article scientifique qui était très, très publié sur Science, il était très important aussi. Mais eux, ils ont trouvé un développement de phytoplancton tout près de la côte d'Indonésie, qu'ils ont associé avec des feux de feux de forêt qu'il y a eu en Indonésie. Mais ça, c'était sur la côte. Et on connaît bien que ce genre de phytoplancton, ça peut devenir en très haute concentration près des côtes quand on ajoute de nutriments. Et là, ça peut devenir dangereux. Parfois, on a aussi des phytoplancton toxiques. Dans l'océan ouvert, c'est complètement différent. Et en fait, ce qui est vraiment inédit dans notre étude, c'est que entre le feu de l'Australie et l'endroit où on observe le phytoplancton, il y a presque 10 000 km de distance. C'est un genre de ce que parfois dans le climat on l'appelle une téléconnexion entre deux écosystèmes qui sont complètement différents. Ce qui s'est arrivé dans un écosystème, ça a impacté un autre écosystème qui était complètement différent. Déjà, il était dans l'océan et en plus, il était à 10 000 km.
Alors, la question qu'on a envie de se poser aussi, c'est comment est-ce qu'un nuage de fumée peut créer la vie?
Et en fait, il y a beaucoup de recherches sur ce que nous appelons les aérosols. On entend beaucoup parler des aérosols en ce moment pour le virus, mais aussi les aérosols sont de toutes petites particules solides qui en fait, sont si petites qu'elles peuvent être transportées dans l'air. Le cas le plus clair, en fait, c'est le sable du désert. Quand on a une tempête de sable, enfin, on voit que dans notre voiture, là, il y a plein de sable qui vient tomber, et ce sable, il vient du désert, d'une région aride. Et en fait, ce sont de toutes petites particules qui peuvent voyager. Et ça arrive pareil dans la fumée. En fait, dans la fumée de feu de forêt, aussi des industries, dans tous les types de fumée, il n'y a pas que des gaz, il y a aussi des petites particules solides. Ce qui est clé ici, en fait, c'est qu'il y avait déjà quelques études qui se proposaient que ces particules qu'on a en feu de forêt, c'est surtout de matière, les matières organiques, des petites parties des arbres qui n'ont pas été brûlées. Et du coup, il a les mêmes nutriments que les arbres. Il y a un peu de nitrate, il y a un peu de phosphate, il y a aussi le fer. Et le fer, c'est un élément qui est super important dans cette région de l'océan. Ce qu'on appelle l'océan Antarctique, ce qu'en anglais, ils appellent le Southern Ocean, ce sont des eaux anémiques, ce sont des eaux où il y a une forte manque de fer. Au point que si on ajoute une toute petite quantité de fer, on obtient une très forte réponse de phytoplancton. Le fer, c'est ce qu'on appelle c'est un micronutriment. C'est-à-dire qu'on a besoin, mais très peu. C'est pareil pour nous. C'est pareil comme les vitamines. On a besoin de très peu de vitamines, mais c'est très important. Il faut vraiment les avoir. Et c'est la même chose pour la vie marine. Du coup, c'est dans cette eau-là, en fait, qu'on a autour de la Tasmanie et, bon, en fait, au sud de la Tasmanie, mais aussi tout le côté du sud Pacifique. On a des eaux où on trouve plein de nitrates et plein de phosphates, mais par contre, il n'y a pas de phytoplancton parce qu'il n'y a pas de fer.
L'autre question que je voulais vous poser, j'ai vu aussi que ces algues, ces phytoplanctons, vous supposez, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de réponse définitive à cette question, mais que elles ont, d'une certaine manière, joué un rôle de tampon vis-à-vis de, bah, des quantités gigantesques de dioxyde de carbone qui ont été dégagées par ces incendies. J'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que c'était plus au cours de ces 3 mois que ce que l'Australie émet sur une année entière, alors que l'Australie est l'un des pays qui pollue le plus au monde, et que ces algues, en fait, eh bien, elles ont absorbé une très très grande quantité de ce dioxyde de carbone. C'est ça? C'est une sorte de d'autorégulation?
Ce serait très joli, en fait, ce serait tout à fait comme ça, mais on ne le sait pas encore. C'est ce qu'on sait, c'est que ces plantes, et c'est la même chose pour les plantes qu'on a à la maison, et c'est la même chose pour les forêts qu'on a sur Terre, quand elles font la photosynthèse, elles absorbent du CO2 et en fait, elles ajoutent de l'oxygène. Ça, c'est la photosynthèse, ça marche comme ça. Du coup, on a pu mesurer à peu près la concentration de phytoplancton, on a pu estimer combien de CO2 ils ont absorbé ces phytoplanctons. Du coup, c'est clair qu'il y a eu une absorption de CO2 dans cette zone-là. La grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé une fois ces phytoplanctons ont absorbé le CO2? Il y a deux options. Une, c'est que le phytoplancton a été bouffé par zooplancton ou pour d'autres petits animaux. Et du coup, le CO2, ça devient en fait un gaz à nouveau qu'il est amené dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'après 2 semaines, 3 semaines, on a à nouveau le CO2 dans l'atmosphère. Du coup, il n'y a pas d'effet tampon parce que ça a été juste un petit effet de surface. Soit le phytoplancton, il chute. Ça arrive souvent aussi. En fait, le phytoplancton, parfois, ça crée ce qu'on appelle des agrégats qui sont assez grands pour chuter dans l'océan. Et c'est là où on appelle la séquestration de carbone. C'est-à-dire que le carbone est organique, finalement, il finit dans les fonds de l'océan. Et là, oui, là, en fait, le carbone, il peut rester là des centaines de milliards d'années.
C'est
Ça, c'est un
le meilleur
mécanisme.
scénario pour nous, les humains qui vivons en surface.
Oui, c'est ça. Et en fait, on sait déjà que l'océan, grâce à l'océan, le changement climat, il est beaucoup moins fort que ce que ça aurait été. Sans cet effet. C'est clair que l'océan, il a cet effet tampon. Mais c'est très difficile à mesurer dans un cas particulier comme celui-ci, surtout parce qu'on n'était pas sur place. Et du coup, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, s'il y a vraiment quelque chose qui a fuité ou que juste ça reste en surface.
Pour revenir sur ces phytoplanctons, sur ces algues, je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai pu lire que, eh bien, elles apparaissent très vite, que lorsqu'elles sont vivantes, elles mangent un petit peu tout ce qui se trouve autour d'elles, et que une fois qu'elles meurent, elles absorbent tout l'oxygène aux alentours, et donc on suppose que ça a pu avoir un impact assez lourd sur la faune et la flore dans cette partie de l'océan austral. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait si, en plus, enfin voilà, je rappelle, ces phytoplanctons, ils ont couvert une surface supérieure à l'Australie. On imagine que, bah voilà, ça pourrait avoir un impact vraiment catastrophique dans cet océan relativement épargné par l'activité humaine. Est-ce que vous, ça, vous avez eu l'occasion d'en savoir un petit peu plus? Est-ce qu'il y a moins de baleines ou
C'est une question un peu compliquée en fait, parce que le phytoplancton, les blooms phytoplanctoniques, il peut y avoir différents types de blooms phytoplanctoniques. Il y a ce qu'on appelle, en anglais, ça s'appelle le harmful algal bloom, c'est-à-dire que ce sont les blooms phytoplanctoniques qui peuvent faire du mal, et ça arrive que dans des régions côtières où on a des eaux qui sont très peu oxygénées, ce sont des eaux qui sont beaucoup plutôt chaudes, avec pas trop d'oxygène. Et dans ces cas-là, parfois, quand il y a une rivière qui ajoute plein de nitrates parce qu'il n'y a pas eu un bon traitement des eaux, par exemple, dans la Méditerranée, ça arrive beaucoup. Le phytoplancton, il grandit très vite. Et en plus, il y a des types de phytoplancton qui sont toxiques. Ça crée des toxines. Et là, ça peut devenir vraiment un truc dangereux. Ça est arrivé en Turquie, en fait, cet été, par exemple, où les œufs sont couverts d'un phytoplanctonique dangereux. Et là, ça peut soit tuer les poissons parce qu'il y a des toxines, soit, et c'est encore pire, ça peut absorber l'oxygène, ça peut, comme vous disiez, il n'y a plus d'oxygène, et s'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, alors les poissons, je peux pas respirer. Par contre, dans l'océan ouvert, c'est complètement différent, et c'est là, c'est notre cas, c'était dans l'océan ouvert. Dans l'océan ouvert, on a toujours assez d'oxygène, c'est très rare d'observer de phytoplancton toxique. Du coup, c'est plutôt l'effet contraire. Dès qu'on observe des blooms phytoplanctoniques dans l'océan ouvert, on est en train d'observer la vie qui apparaît, en fait. Il faut imaginer qu'on est dans un désert et tout d'un coup, on voit de l'herbe qui apparaît. Une fois qu'on a l'herbe, on va voir de petits insectes, de petits animaux. C'est là où toute la chaîne alimentaire va démarrer. Du coup, dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait d'observer de phytoplancton, parce que ça veut dire que cette région-là, ça a été plutôt une région beaucoup plus riche que d'habitude.
Donc, ces incendies catastrophiques auront peut-être eu une conséquence positive quelque part ailleurs sur la planète.
C'est ça.
Concernant cette recherche, donc elle vient d'être publiée, est-ce que vous et votre équipe, puisque vous êtes plusieurs à avoir participé à ces travaux, est-ce que il y a des suites qui sont prévues, un approfondissement de vos recherches sur certains aspects que vous avez étudiés?
Oui, il y a deux suites. En fait, cette étude, il ouvre plus de questions qu'il ferme de questions. Il y a une des questions qu'on aimerait beaucoup répondre. C'est pas moi qui je ne focalise pas sur ça, mais c'est plutôt l'équipe américaine. Eux, ils aimeraient bien avoir ce qu'on appelle une équipe de réponse rapide, un bateau tout prêt, au cas où on arrive à observer un autre phytoplancton, un autre bloom phytoplanctonique relié au feu. Aller avec le bateau sur place et mesurer qu'est-ce que ça arrive dans l'intérieur de l'océan pour essayer de répondre à la question qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu une vraie séquestration de carbone? L'autre question, c'est à laquelle moi je vais m'intéresser plutôt, c'est vu qu'on a de feu et de feu très intense un peu partout dans le globe, en Arctique, en Méditerranée, dans la Californie, comme ces différents feux, ils peuvent affecter les océans qu'ils ont autour de, pour moi, un cas très intéressant, en fait, c'est en Sibérie. La fumée de feu de Sibérie, ça arrive dans l'océan Arctique. L'océan Arctique, il est en plein changement, en fait, parce que c'est en train de devenir un océan ouvert, parce qu'il y a moins et moins de glace, du coup, on a beaucoup plus d'eau. Ça peut devenir une zone très productive et même une zone de pêche dans le futur à venir. Du coup, c'est très important d'essayer de comprendre les liens entre les feux de forêt et les océans qui sont tout près. notamment dans les océans où les activités humaines ils vont grandir dans les années à venir.
Bah écoutez, merci beaucoup, Johan Hjort, pour toutes ces explications et bon courage pour la suite de vos travaux. C'est vraiment passionnant en tout cas. Merci beaucoup.
Merci, merci.